Bertrand Chevalier Chantepie, bonjour, bienvenue sur Radio Maria France.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Alors, vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Accomplir sa vie d'homme ». Le sous-titre, c'est « Donner naissance, vivre et bénir ». Donc, ce livre est paru aux éditions Arthège. Ce sera le thème de notre émission d'aujourd'hui. Mais auparavant, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour nos auditeurs?
Bien sûr. Je suis Bertrand Chevalier Chantepie. Je suis marié depuis un peu plus de 25 ans maintenant, avec mon premier amour, qui est toujours mon premier amour d'ailleurs, et qui sera le dernier. J'ai la chance d'avoir trois enfants de 22, 20 ans et puis 10 ans. Et on a vécu, comme toute histoire d'amour, on a plein de projets. Puis en fait, il y a la réalité de la vie qui nous rattrape, qui nous fait sortir justement de nos projets pour accueillir et consentir à la vie telle qu'elle arrive. Et ma femme a été malade pendant une dizaine d'années, ce qui explique l'écart d'âge entre mon fils de 20 ans et ma fille de 10 ans. Donc on a été pas mal rabotés à ce moment-là. Mais ça a été aussi un lieu de fécondité pour nous, en particulier dans notre vie de foi. On a été obligés de... en fait, contraint et forcé d'accueillir le réel tel qu'il se présentait, sans le projeter, sans l'imaginer, sans vouloir le contrôler absolument ou le dominer, ce qui est assez vain finalement. Et puis comme ma femme est allée mieux, j'avais pendant cette période de maladie un petit peu pris le rôle de l'accompagnant, soignant, alias sauveur. Et quand ma femme allait mieux, elle n'avait plus besoin d'être sauvée, donc ça a provoqué en fait une crise de couple où il a fallu qu'on se redécouvre, qu'on se resitue l'un par rapport à l'autre. Ça a fait jaillir des choses qu'on n'avait pas forcément vues en nous, qui étaient un peu tapis, parce qu'en fait nos rôles nous convenaient bien. Et donc c'est sur ces douloureuses situations que j'ai... vécu en 2016 un camp au cœur des hommes, invité par un copain de l'école de ma fille. De toute façon, j'avais rien à faire le week-end puisque j'étais un peu parti de chez moi à ce moment-là parce qu'on n'y arrivait vraiment plus. Et c'était à la Sainte-Baume. Et en fait, c'est la Sainte-Baume, je ne connaissais pas, je savais que c'était très beau, que j'avais envie d'y aller. Et j'avais rien à faire le week-end, du coup j'y suis allé, même si l'idée de passer un week-end entre mecs, au début j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. C'est quoi cette embrouille? Mais voilà, devant le vide qui habitait ce week-end, j'y suis allé et en fait, bien m'en a pris puisque j'en suis revenu transformé, je ne sais pas, mais en tout cas... converti à ma propre dignité, puisque je me suis rendu compte, comme tous les gars qui étaient là-bas, qui dans le secret de nos cœurs ou même dans notre inconscient, on avait tous une difficulté avec notre dignité masculine, notre dignité d'être des hommes, d'être des humains, ok, mais d'être un homme, c'est pas si évident que ça par les temps qui courent. Et même si on l'a pas conscientisé, on n'ose pas prendre nos places. Et donc ça m'a amené à, en fait, devant ce constat de voir que moi-même, j'avais vécu une forme de conversion, d'ouverture à un monde que je n'imaginais pas. Et ça a été à l'occasion d'une confession. Donc, vous voyez, c'est vraiment très étonnant comment ça peut se produire. Je me suis engagé dans l'association, puisque j'ai dès lors considéré que c'était une mission de salut public. D'aider les hommes à retrouver leur dignité afin qu'ils puissent occuper leur place, une juste place, non pas trop de place, mais certainement pas assez. Et aujourd'hui, en fait, comme on manque de confiance, on a un peu les chevilles qui tremblent, puisqu'on ne veut pas faire le mal, et en fait, donc pour éviter de faire le mal, on va plutôt rien faire, plutôt que de prendre le risque de faire mal. Donc c'est tout un cheminement qui m'a amené progressivement à prendre en main cette association au cœur des hommes. Alors c'est un service de... Moi je le considère comme un service d'église puisque ça a vraiment une vocation missionnaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être missionnaire si on n'a pas... une saine estime de soi, alors bien entendu sous le regard du père. Et donc se reconnaître fils, ça implique déjà de reconnaître sa dignité, sans quoi, bah, en fait, on sent le fils indigne qui n'ose pas se présenter au père et qui va fuir le père finalement. Donc c'est cette crise de la paternité, puisque je pense qu'il n'y a pas vraiment de crise de la masculinité, mais il y a une vraie crise de la paternité, donc de la transmission, de la filiation, nécessite vraiment d'être prise en compte à tous les échelons de la société, et en particulier dans l'Église, hein, mais pas plus qu'ailleurs à la limite, puisque le sujet de cette filiation, c'est un sujet qui remonte bien avant. Ben la foi chrétienne, qui remonte d'ailleurs bien avant l'histoire du peuple juif, puisque les anthropologues estiment à peu près que les rites de passage à l'âge adulte, en particulier pour les garçons, remontent à 15 000 ans, 16 000 ans à peu près. Donc on est bien au-delà des questions d'ordre purement chrétienne et spirituelle ou même hébraïque en fait. On est vraiment sur une dimension anthropologique humaine. Et alors la bonne nouvelle, comme dans tant d'autres domaines, c'est que la dimension humaine, philosophique, spirituelle, théologique se matche parfaitement, en particulier dans la foi chrétienne, puisque ben, notre Dieu est Père. Et donc ça a une incidence. Donc on voyait bien qu'il y a différentes feuilles de calque ou différents prismes de lecture de la dimension humaine, et en particulier la dimension spirituelle. Et c'est vrai qu'on a la chance, en tant que chrétien, d'avoir un Dieu qui est Père, qui veut se faire proche, qui fait alliance avec nous, qui veut qu'on soit non pas des serviteurs, mais des fils et des filles. Et en fait, ça change tout dans notre relation à notre Dieu, puisqu'on peut avoir une relation avec lui. Voilà. Donc, la crise actuelle, c'est où l'homme est directement concerné, c'est une crise de paternité. Et moi, je considère, et je l'observe de fait, que la paternité, c'est pas seulement une paternité biologique, c'est-à-dire que tout homme est père par nature, il n'a rien à faire. Même les hommes qui n'ont pas d'enfants biologiques sont pères. Et je le vois dans tellement de circonstances que c'est très édifiant de voir ça. Je prenais un exemple qui m'avait frappé à un moment quand je pensais à toutes ces questions au moment de l'écriture du bouquin. Alors il se trouve que je suis à la messe, donc il y avait des enfants de chœur, et en fait, il y avait un tout petit enfant de chœur qui débutait, et puis il y avait des plus grands enfants de chœur qui connaissaient bien leur job, et qui étaient d'une très grande tendresse envers ce petit. Il le guidait, il l'accompagnait, il lui montrait le chemin, il le recoiffait même, il le rhabillait parce qu'il était habillé comme un sac de nœuds. Et donc c'était vraiment très touchant de voir cette tendresse paternelle déjà inscrite dans le cœur de ces garçons qui avaient peut-être 10 ans, 12 ans, je ne sais plus exactement, mais envers un plus jeune. Donc on voit déjà ces prémices de la paternité dans les mouvements scouts, hein, où l'esprit est de s'occuper du plus petit que soi. Et en fait, la paternité, on va développer un peu ce sujet au cours de ces 30 minutes. C'est quelque chose qu'on a un petit peu perdu de vue. Et aujourd'hui, on s'est pu répondre à deux questions. Qu'est-ce qu'un homme? Et qu'est-ce qu'un père? Et je dirais une troisième question, à quoi ça sert? Mais en fait, elle est liée à la deuxième question, qu'est-ce qu'un père? Voilà, un homme, ça sert à être un père. Mais voilà, qu'est-ce qu'un père? Et cette disparition totale de la définition de qu'est-ce qu'un homme, on parle beaucoup de la femme aujourd'hui, et c'est très bien, je m'en réjouis que les femmes se sentent plus libres, plus égales, plus tout ce qu'on veut. C'est vraiment chouette, mais il y a une telle insistance sur la femme qu'on se demande si l'homme a encore sa place, si l'homme a encore une fonction particulière, s'il est utile, et puis s'il est inutile, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Est-ce qu'on en fait une femme comme les autres? Ou est-ce qu'on en fait un espèce de truc androgyne dont on ne sait plus très bien ce qu'il est finalement. Et en fait, ça provoque que du malheur. Aujourd'hui, on le voit dans les couples, hein, c'est 50% des couples qui divorcent. Si on fait une projection, je me suis amusé, c'était pas très drôle comme projection, mais je me suis amusé à prendre les statistiques des divorces en fonction de l'âge et du nombre d'années de mariage. Si on fait une projection à 20 ans, c'est 70% de couples qui divorcent. Donc il y a quand même un petit sujet, sachant qu'il y a une autre métrique qui est intéressante, voilà, c'est à entendre, c'est que 75% des divorces sont demandés à l'initiative des femmes. Alors qu'est-ce que ça signifie? Voilà, je pose des questions, chacun qui vit en couple peut avoir une idée. Moi, mon brin d'explication, alors toute humble évidemment, hein, ça n'a pas parole de vérité, mais c'est vraiment mon analyse, c'est que les hommes ont du mal à intégrer leur dimension masculine, à l'assumer et à l'offrir. Et donc, comme ils ne savent pas à quoi ils servent, en fait, ils se retirent, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour éviter de faire mal, parce qu'en fait, bon, je ne sais pas très bien à quoi je sers, ma femme a l'air de tout bien gérer, donc bon, moi, si je fais un truc, ça ne va pas bien se passer, ou je vais prendre le risque que ça se passe mal, donc je ne vais rien faire, et puis je vais plutôt m'occuper à travailler, puis à répondre uniquement à la dimension de ma vie finalement animale, c'est-à-dire de nourrir, de ramener de la thune à la maison, et puis de m'éclater à la limite en dehors de la maison et à mon travail, et puis délaisser un petit peu ma mission paternelle, etc. Je suis très frappé de voir, je faisais une intervention dans un lycée, plusieurs interventions ces dernières semaines, dans le cadre de l'éducation affective et sexuelle, puisque cette distinction homme-femme, c'est un petit peu un sujet qui touche la sexualité. J'étais consterné de voir la, en fait, la perte de compréhension, la perte de connaissances humaines de ces jeunes qui sont abreuvés, d'âneries dans les médias mainstream, alors pour le coup, les déconstruisent complètement, avec, je veux dire, juste que la clé de la déconstruction, c'est de revenir au temps des cavernes. Hein. Si on considère que toute construction est mauvaise, on revient à l'homme sauvage, et l'homme sauvage, c'est pas, et la femme sauvage, c'est un monde de domination, de violence, et justement, on a été missionné par Dieu pour stabiliser, apaiser, structurer, fructifier, faire grandir le monde et le pacifier. Donc la déconstruction, elle a vraiment ce travers, en fait, de ne pas avoir de limites. Voilà. Et en fait, il ne s'agit pas de déconstruire, in fine, il s'agit de choisir ce qu'on veut transmettre ou pas. Et d'être donc conscient de ce qu'on doit transmettre aux générations d'après, et puis conscient de ce qu'on doit arrêter. Donc ça signifie un regard critique, un regard objectif sur sa propre vie, et donc d'avoir une certaine forme de capacité à décider, et pas juste tout jeter avec l'eau du bain. Donc en fait, ces jeunes, j'ai observé qu'ils étaient vraiment perdus. Et avec une majorité, j'aurais posé les questions, de pères absents finalement, et c'est leur mère qui s'occupait d'eux, qui portait la charge éducative en fait. Et j'ai trouvé ça très très triste en fait de constater ça. Alors, ce qui confirme bien toutes les hypothèses qu'on observe dans nos activités au cœur des hommes, ce qui m'ont amené. Hypothèses qui m'ont amené à lancer un projet qui s'appelle Être un homme. Hein. Vous pouvez retrouver les infos sur etreunhomme.fr. Et en fait, il s'agit de reformer les hommes et les pères en particulier, mais tout homme est père, hein, comme j'ai dit, donc c'est beaucoup plus large que simplement la filiation biologique, à reformer les hommes à ce qu'ils sont, leur redonner de la perspective, pour les aider à vivre heureux, à prendre leur place et à avoir une vie qui soit donnée, puisque c'est notre mission, c'est vraiment une vie, d'avoir des vies données et pas d'avoir des vies à consommer, à prendre, à avoir peur, et voilà. Donc on est appelé à une certaine forme de radicalité finalement, d'ouverture, hein, en théologie, on parle de principe de don, et c'est très intéressant de retrouver cette origine du principe de don, hein, puisqu'on est figure du Père. Donc c'est très impressionnant d'être figure du Père, puisqu'on est forcément une pâle figure du Père, mais on est quand même figure du Père. Et donc ça suppose quelques ajustements dans nos comportements, puisque le Père d'abord, si on prend le premier chapitre de la Genèse, il crée le monde en parlant. Donc il bénit, en fait, il dit les choses, et en fait sa parole est puissante, sa parole est, on dit qu'elle est performative, c'est-à-dire qu'il suffit de dire la chose pour qu'elle se crée. Hein, et on le voit hein, dans le premier chapitre, il y a 32 verbes d'action de Dieu, il y en a 16, 16 quand même, c'est la moitié, il parle, Dieu dit. Voilà, Dieu dit, il y en a la moitié de ces 16, donc 9, c'est... il y a une action, et en fait, c'est automatique, c'est quasiment automatiquement consécutif à sa parole. Donc, en fait, il dit que le monde soit, boum, et le monde fut. Et la troisième action de Dieu, c'est qu'il regarde. Il vit que cela est bon, et il s'en réjouit. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Et donc, en fait, nous, les pères, on est appelés à utiliser notre parole. Et on va voir à quoi elle sert, notre parole. Cette parole, elle est puissante, et c'est comme ça qu'on donne la vie. Et nos enfants, et nos proches, au-delà de nos enfants, toutes les personnes qui nous sont confiées, même à notre travail, ont besoin d'entendre nos paroles, et nos paroles en particulier de bénédiction. Hein, puisqu'on a le choix entre deux paroles, hein, si je résume simple, soit on dit du bien, soit on dit du mal. Et là, quand on s'adresse à des personnes. Donc, en fait, on a. Alors, on nous dit. D'ailleurs, c'est là-dessus qu'on va être jugé. Hein. Jésus, il nous a dit de ne pas critiquer, de ne pas juger les autres. Sans quoi, c'est avec notre propre prisme de jugement qu'on va être jugé nous-mêmes. Donc, autant dire que c'est pas une bonne option, quoi. Pour autant. On a la langue bien pendue, l'esprit bien affûté sur le jugement et la critique, sans forcément nous en rendre compte, hein, et peut-être même qu'on ne va pas l'exprimer, mais on ne va pas choisir la bénédiction. Et notre mission, une de nos missions paternelles, c'est de bénir. Il y en a d'autres, on le verra, mais... Je pense que c'est vraiment une dimension essentielle. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de bénir nos enfants et de leur donner la vie par notre parole de bénédiction? Et qu'est-ce que ça signifie de bénir? Alors qu'est-ce que ça signifie de bénir? C'est simple, c'est dire du bien. Donc à mes enfants, je suis appelé à dire du bien. Et dire du bien, c'est remarquer, verbaliser leurs qualités. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que quand je fais ça, les qualités de mon enfant ou de mon proche, peu importe, hein, je peux même le faire avec ma femme, elles grandissent. Parce que ma parole est puissante, ma parole est performative. C'est-à-dire que si je dis à un enfant qui est, je sais pas, qui est bon en sport, t'es bon en sport, il sera encore meilleur en sport. J'ai une petite fille ma fille de 10 ans, elle adore la compétition, l'athlétisme, voilà, elle court hyper vite, donc voilà. Et en fait, à chaque fois que je lui dis qu'elle est bonne en course et qu'elle est. Voilà, qu'elle a un bel esprit de compétition, et ben en fait, ça renforce cette puissance en elle. Et c'est pareil pour tout ce que je vois de beau chez mes enfants. On est tous appelés à rappeler, à manifester ce beau pour le faire grandir. Alors, pourquoi il y a besoin de cette parole de père et pourquoi le père a besoin de donner la vie? Si je résume le cycle de la vie, la maman, elle donne la vie biologique. Voilà, on dit souvent que la mère est plus spirituelle, mais en fait, elle est plus incarnée. C'est elle qui donne la vie biologique. Donc, elle sait bien ce que ça signifie, cette incarnation dans son propre corps d'une nouvelle vie qui grandit et qu'elle va amener à suffisamment de maturité et d'indépendance pour que cet enfant devienne autonome, finalement. Et en fait, quand la maman donne la vie biologique et apprend à l'enfant la puissance de la relation, l'amour, la tendresse, vraiment le lien affectif, le lien affectif, eh bien, le père va donner la vie psychique à l'enfant, puisque l'enfant, quand il naît, il est en fusion totale avec sa maman. Et donc, même s'il est biologiquement masculin ou féminin, il n'y a pas de discussion, hein, ces chromosomes XY ou XX, point, il n'y a pas de virgule, sauf dans une naissance pour 30 000 à peu près, les hermaphrodites. Donc là, il y a un bug de la nature à ce moment-là, mais c'est vraiment très peu. Donc en fait, c'est féminin, masculin, point en biologie. Par contre, on peut dire, comme l'enfant est en fusion totale avec sa maman, bah, qui naît psychiquement comme sa maman, c'est-à-dire féminin. Donc pour une fille, c'est relativement naturel, même s'il faudra qu'elle s'en sépare pour s'individualiser et devenir une personne adulte libre et indépendante. Donc il y a un moment, il y a une coupure à réaliser. Et ça, c'est précisément le rôle de l'homme, du père, d'opérer cette coupure psychique, en fait, hein, de dire, voilà, t'es pas ta mère. T'es une jeune femme, voilà, tu vas avoir une vie différente, tu n'es pas obligé de reproduire toute la vie de ta maman, c'est à toi de choisir ta vie avec tes propres dons, tes propres qualités, qui ne sont pas les mêmes que celles de ta mère, donc ta vie ne peut pas être un clone de celle de ta mère, et puis tu es équipé pour ça, avec toutes tes qualités, et ça c'est la parole de bénédiction, donc de les préciser, et puis voilà, donc ça c'est tout le rôle du principe de séparation et d'envoi dans le monde du père pour la fille. Il y a ce même rôle, peut-être encore plus sensible et plus important pour le garçon. D'ailleurs, les rites de passage à l'âge adulte depuis 15 000 ans ne concernent que les garçons. C'est très étonnant, mais c'est très facile à comprendre quand on mesure que le garçon naît psychiquement en fusion avec sa maman, donc on pourrait dire psychiquement féminin alors qu'il est biologiquement masculin, il a un chemin d'intégration de son identité masculine beaucoup plus long que pour une fille. Donc il a besoin d'être aidé. Et s'il n'est pas aidé, le garçon, en fait, il va tourner en rond toute sa vie en étant un adolescent toute sa vie. Et donc le job du père, là, et alors ça se fait à travers la rite de passage où il y a un collectif masculin. Et en fait, on reçoit cette masculinité par imprégnation plus que par injonction. Il n'y a pas tu seras un homme, fais comme ci, fais comme ça. Il n'y a pas un canon de la masculinité. C'est on est un homme, point, sans se poser de questions. Par contre, on a des qualités et ces qualités-là vont s'appuyer sur, bah, vont se déployer sur notre masculinité naturelle, notre biologie naturelle, nos hormones masculines, etc. Donc, elles vont avoir une teinte tout à fait particulière. Et en fait, le père, il a cette mission de séparer le garçon de sa maman. Hein, et dans un rite de passage, il y a trois phases. Il y a une phase de séparation, une phase de levée des tabous, donc d'enseignement, et puis une phase d'intégration du nouveau monde. Donc la séparation, c'est de couper l'enfant psychiquement. Hein, bien sûr, on ne va pas séparer physiquement l'enfant de sa mère. C'est pas du tout de ce registre-là, mais de faire prendre conscience à l'enfant qu'il doit quitter le monde de l'enfance, donc lâcher le doudou, les jupons de maman, son petit parfois nombrilisme, ah, j'ai bobo là, puis je me regarde le nombril et puis je vais chercher un doudou pour me consoler. La vie d'un homme, elle est beaucoup plus compliquée que ça en a l'air, et donc c'est très bien. De s'arrêter, de se poser, de se regarder un petit peu, évidemment, mais à se regarder le cœur et pas le nombril. Et pour autant, il faut savoir notre responsabilité qu'on a. Et en fait, se regarder, être proche de son cœur, c'est important pour bien vivre sa mission masculine. Sans quoi, on est sur une forme de canon d'agir avec une liste de il faut. Et en fait, ça, bah, ça sonne faux, les il faut. Et ça fructifie pas, ça féconde pas. Donc ce job de séparation fait, il y a un travail de lever des tabous, qui est là un enseignement sur tous les désirs profonds qui sont inscrits dans le cœur de l'homme, les défis associés. Puisqu'en fait, si on n'a pas cette parole de bénédiction, on va douter toute notre vie. qu'on soit homme ou femme, hein, y a pas personne n'y échappe. On doute de notre valeur. Les hommes vont douter plutôt sur leur capacité à protéger, à faire vivre leur famille, à être capable de mener leur vie. Les femmes vont plutôt faire porter ce doute sur leur beauté, en fait. Est-ce que je vaux le coup? Est-ce qu'il y a un homme qui va me regarder? Est-ce qu'il y a un homme qui va se battre pour moi? Si le père n'a jamais porté un regard d'affection sur sa fille, lui a jamais dit qu'elle était belle, qu'elle était charmante, j'ai des images de mes filles en robe magnifique, brillante de partout, rose, mauve, à se trémousser avec du rouge à lèvres sur les lèvres mises un peu n'importe comment, à me regarder avec des yeux brillants. Et qu'est-ce qu'elles attendent? Elles attendent la confirmation du père qui leur dit: oui, ma fille, tu es belle. Tu vaux le coup, c'est bien, et ta beauté, c'est un grand don. Et comme tout grand don, c'est comme un pouvoir, et tout pouvoir donne une grande responsabilité aussi. Donc, ce rôle, eh bien, vis-à-vis du garçon, ça va être ça, de le rassurer par rapport à sa force, en fait, hein, aussi bête que ça. Et donc, on travaille toutes ces questions-là. Dans nos activités au cœur des hommes. Et puis, j'en ai fait mon métier pour pouvoir répandre la bonne parole, puisqu'il y en a vraiment besoin partout, de réengager les hommes dans leur mission, de les aider à se déployer, à prendre leur place dans les couples, à prendre leur place dans leur famille, auprès de leurs enfants, et dans le monde d'une manière générale, puisque si on n'a pas des hommes qui interviennent et qui agissent dans le monde pour le soutenir, l'envoyer, le fortifier, en fait, on retourne vers un monde de la domination, alors que on est appelé à être puissance de don. Voilà ce qui suppose de faire un petit, je dirais, un travail d'humilité. Vous voyez, il y a eu un très beau chant juste avant de démarrer l'émission. C'était ce qu'il y a de faible dans le monde, c'est ce que j'ai choisi pour. Voilà, enfin, c'est la parole de Saint Paul. Eh bien, voilà, on est tous appelés à cette humilité, se voir en vérité. On a les chevilles qui tremblent, on n'a pas été confirmé, et tant qu'on n'est pas confirmé, eh bien, en fait, on n'osera pas prendre notre place, et on a besoin de cette confirmation. Et cette confirmation, on la reçoit aujourd'hui, dans des activités pour hommes, hein, et les camps au cœur des hommes. En fait, on s'est rendu compte que, en fait, c'était des rites de passage qui disaient pas leur nom. Donc, partant de ce principe-là, on a créé des week-ends père-fils où on assume totalement l'aspect rite de passage, et c'est extrêmement beau et édifiant de voir deux choses. Un garçon qui est béni, il prend 10 cm d'un coup. Et il prend 100 points de confiance en soi. Et puis deux, c'est que le père, qui se sent pas légitime pour faire ça puisque lui-même ne l'a pas reçu, en fait, en donnant un cadre qui lui permet de vivre ça, il retrouve lui-même toute sa légitimité paternelle qui va pouvoir se déployer bien au-delà de ce week-end qu'on organise. Donc voilà. Je vous invite à regarder ça de près, puisqu'il y a une vraie, à mon sens, nécessité pour tous les pères, hein, de vivre un tel processus qui donne beaucoup de joie, puisque le fruit de tout ça, c'est quand même de retrouver une grande joie, parce qu'en fait, on sait à quoi on sert, on sait quelle est notre place, et on peut féconder le monde à notre manière, et il y a besoin que les hommes soient vraiment présents aujourd'hui, et aient une parole d'autorité, une parole parfois tranchante. Parfois, les hommes disent non. Ne laissons pas les femmes toutes seules avec cette charge-là qui pèse lourd sur leurs épaules, puisqu'elles sont d'abord amenées, elles, à éveiller à l'amour, à la relation. Elles sont vraiment très fortes sur ces sujets de la relation. Nous, on a un peu plus de mal. Par contre, on a une puissance naturelle qui nous permet d'avoir une parole d'autorité. Donc, il faut qu'elle soit bien ajustée, cette parole d'autorité. Donc, ça suppose une forme d'humilité, donc de prudence, Et là, on revient sur eh bien, la virilité, c'est virtus, et ça vient de la vertu. Donc pour un homme, il n'y a pas d'autre option que d'être vertueux. Et être vertueux, hein, je rappelle les quatre vertus humaines, donc c'est pareil, ça n'a rien de chrétien, hein, ça vient des Grecs. Le courage, donc c'est associé à la vertu de force. Donc avoir de la force, c'est pas une option en fait pour un homme. Il y a besoin de cette force pour protéger notre famille, pour oser, pour avoir la force de s'interposer, de dire les choses telles qu'elles sont. Il y a de la justice, il y a de la prudence. Donc ça, c'est des forces du cœur. La prudence, ça implique l'humilité, puisqu'il faut être prudent. Donc je rappelle qu'il n'y a pas de pensée prudente. Hein. La prudence n'appelle pas à la lâcheté, à la non-action. C'est un agir prudent. C'est-à-dire que la prudence, c'est une analyse de la situation, une décision et un acte. Et parfois, je décide de ne pas agir, mais ça relève toujours d'une décision qui est un acte en soi. La justice, c'est pareil. Pour faire justice, il faut pouvoir trancher. Et c'est pas évident, donc ça sous-entend d'avoir une certaine force. Et puis la maîtrise de soi, bah là, c'est l'attention permanente à où est-ce que j'en suis moi émotionnellement. Donc en fait, ça aussi, c'est une attention à la présence de soi, à la conscience de soi, à la conscience de où est-ce que je suis dans mon cœur. Est-ce que je suis dans mon cœur ou dans mon mental? Et souvent, on n'est que dans notre mental à essayer de construire, de contrôler, de planifier, de juger, de voilà. Mais en fait, Jésus est doux et humble de cœur. Et si on a un modèle de masculinité à suivre, bah, c'est bien lui. Et on sait qu'il est bien viril, Jésus, quand même. Parce que quand il parlait aux pharisiens, il parlait pas avec le dos de la cuillère. Il les a insultés, il les a maudits. C'était vraiment... abrupt en fait, hein. Il avait une parole radicale, mais il est infiniment doux et humble de cœur. Donc en fait, on a cette tension à vivre entre, c'est vraiment une tension vers l'impossible, comme dit Emmanuel Mounier, comme il le dit si bien sur la virilité, c'est entre la douceur et la force, un équilibre permanent, et là, la maîtrise de soi, bah, c'est un peu un sujet permanent auquel on est amené à travailler. Hein. Donc voilà, je vous invite à me poser toutes vos questions, remarques. Alors c'est très court, hein. Moi je pourrais parler 8 heures non-stop, mais donc posez des questions sur ce qui n'a pas été très clair, sur des interrogations que ça ramène, que ce sujet ramène, alors qu'on peut parfois trouver qu'il est clivant, mais pas du tout, hein, puisque c'est un sujet très actuel. Et les femmes qui vivent avec des hommes qui ont du mal peut-être à prendre leur place le savent bien. Elles ont souvent la charge mentale de toute la famille. C'est parfois difficile. Et donc voilà, bah, je vous laisse poser vos questions. Merci de votre écoute.
Bertrand Chevalier-Chantepie, nous avons reçu une question par SMS. Il s'agit de Marie-Éléonore qui écrit ceci. Un grand merci pour cette présentation. Pourriez-vous nous donner plus d'informations sur les week-ends père-fils et sur le site internet évoqué en début d'intervention, ainsi que les références de votre livre?
Oui, je vous remercie Marie-Léonore pour votre douce question. Donc, premier élément des week-ends père-fils. Donc, les week-ends père-fils sont adressés à des... on mesure pas l'âge des pères, évidemment, mais plutôt l'âge des fils. Donc, c'est à partir de 14-15 ans, puisqu'il faut avoir un certain niveau de maturité pour le faire. Et donc, c'est tous les fils à partir de 14-15 ans sont les bienvenus. Et il n'y a pas de limite d'âge, c'est-à-dire que la limite d'âge haute, c'est que est pratique. C'est-à-dire que c'est un week-end en bivouac. Où le père et le fils dorment dans la tente ensemble, donc vivent un moment super sympa entre eux. Donc l'âge de la limite haute, c'est l'âge du père qui acceptera de dormir en bivouac avec son fiston. Voilà, puisque c'est assez inconfortable. Donc le papa de 75 ans, on imagine bien que ça le branche pas trop. Mais pour autant, à chaque week-end, et on a démarré les week-ends en commençant à... On s'est dit au début, l'âge de la bar mitzvah, c'est le bon âge, donc 13 ans. Et puis en fait, on se rend compte que ben, l'âge de nos garçons ont besoin d'un peu plus de temps avant de vivre ça. Donc on a remonté un petit peu l'âge, mais à chaque week-end, on avait des garçons de, de 20 ans, 25 ans, on a eu 33 ans. Et ça marche très très bien. On a même des demandes d'hommes de 40 ans, 50 ans pour vivre ce genre de week-end avec leur père, puisqu'il n'y a pas d'âge pour vivre ça et recevoir cette bénédiction. Voilà, pour le week-end père-fils. Les infos, on les trouve sur le site aucoeurdeshommes.org. Alors, au-coeur-homme, enfin, -deshommes.org. Du 6, la suite du milieu. Mais si vous faites au cœur des hommes, .org, vous trouverez le lien dans les moteurs de recherche et vous pouvez vous inscrire en ligne. Alors, les week-ends père-fils pour 2023, ils ne sont pas encore affichés. Je suis désolé, j'ai un peu de retard sur cette question-là, mais je travaille la question. Donc, revenez dans quelques temps ou inscrivez-vous à la newsletter. Alors, on envoie assez peu de newsletters, mais donc, et en particulier, on envoie les dates quand elles sont annoncées. Ou revenez régulièrement sur le site et puis vous trouverez les dates. Ça, c'est pour les week-ends père-fils. Les camps pour hommes, c'est de 20 ans à 75 ans. Toutes conditions, on a des propédeutes, des séminaristes, des mariés, des veuves, des divorcés, des multidivorcés, des célibataires, des prêtres. On a des frères de communautés religieuses, puisque la question de l'homme, en fait, ça concerne tout le monde. Et on est très content de les accueillir. Et dans mon activité professionnelle, je commence à travailler auprès des séminaires pour former les séminaristes à cette question de la paternité. Donc ça va être une paternité sacerdotale sur une journée très pratique, voilà, qui s'inspire beaucoup de ce qu'on vit comme paternité biologique en tant que papa d'enfant. Voilà, et les références du bouquin, c'est donc le titre, c'est Accomplir sa vie d'homme aux éditions Artege. Je ne sais pas très bien quoi dire de plus en fait, puisqu'il suffit de voilà, c'est disponible un peu partout. Voilà.
Alors, nous avons reçu deux autres SMS. Donc, le suivant, vous avez partiellement répondu. Donc, c'est Armand qui écrit: Bonjour Bertrand, merci beaucoup pour ce bel enseignement. Je suis depuis Niamey au Niger. On en a vraiment besoin. Ce que nous constatons aujourd'hui, et je voudrais un support de cet enseignement qui permettrait d'en parler autour de moi et notamment au niveau de la paroisse. Alors Armand, donc Bertrand vient de donner les références de son ouvrage et vous pourrez bien sûr réécouter cette émission en podcast sur le site internet de Radio Maria.
Et nous allons... Après, si vous voulez plus d'infos, vous pouvez me contacter, enfin, vous envoyez un mail à contact@aucoeurdeshommes, là, qui est une adresse qui est disponible sur le site. Et puis on y répondra si vous avez besoin d'infos pour particulières. Hein, je pense à Armand, mais peut-être à d'autres. Il y a moyen de fournir de plus amples contenus pour vous aider à partager cette bonne parole, entre guillemets.
Donc en allant sur le site Au cœur des hommes allant donc dans la rubrique Contact.
Exactement.
Et nous allons terminer avec un SMS d'Isabelle. Bonjour Radio Maria, bonjour à votre intervenant que je remercie pour ce partage d'expérience, de vécu et qui a déployé une prise de conscience vers une paternité responsable. Ma question est de savoir, est-ce que vous intervenez au sein des paroisses pour parler de votre expérience auprès des couples, des pères de famille et aussi les hommes ou une famille non chrétienne? La dimension de bénir ou bien dire ses enfants et sa famille me semble très importante. C'est un réflexe qu'a de façon naturelle une mère ou une épouse, mais venant du papa de l'époux, je n'avais jamais mesuré l'impact que cela peut avoir sur la vie. Et c'est signé Isabelle.
Merci Isabelle, merci pour votre partage, très beau partage. Oui, bien sûr. Je donne soit des conférences et je peux animer des veillées. On a créé lors du dernier festival marial là, en août, une veillée justement sur le thème de la bénédiction qui était vraiment très belle, où je suis allé puiser dans la Bible toutes les paroles de bénédiction de Dieu pour son peuple, ou les différentes paroles de bénédiction qu'on retrouve, et il y en a pas à toutes les pages, mais il y en a énormément. Et puis on avait fait une démarche pour recevoir une parole de bénédiction qui était donnée et prononcée par quelqu'un d'autre, pas seulement un petit papier qu'on lit tout seul dans son coin. Et c'était très beau, puisqu'en fait on est tous appelés, à hommes et femmes, à être des bénis, donc se reconnaître bénis, puisque si Dieu nous a donné la vie, nous a voulu, c'est qu'on est bénis. et des bénis bénissants. C'est-à-dire qu'on est appelé à bénir aussi. Et en fait, ça, c'est très beau de déployer cette puissance de la bénédiction. Et chez nous, alors je partage ça en complément, on a une règle d'or qu'on s'est fixée avec mon épouse, c'est qu'on a une règle bouche d'or, voilà, Chrysostome, hein, Saint Jean Chrysostome, c'est... Et bouche d'or, c'est-à-dire qu'on ne critique pas. Et on dit, même quand il y a une galère, on dit merci Seigneur, c'est chouette, on ne comprend pas très bien quelle est la fécondité de cette galère ou de cette personne qui nous emmerde, mais... Sois béni, Seigneur, pour cette personne. Voilà. Et en fait, on s'empêche de critiquer. Et je peux vous dire que c'est une petite recette toute bête. Ça a changé l'ambiance à la maison où tout le monde s'y est mis, les enfants aussi. Et maintenant, bah, quand il y en a un qui dérape, on dit bouche d'or. Et puis voilà, ça s'arrête. Tout le monde a compris, revient dans l'ordre. Et puis on bénit abondamment la personne qui nous a ennuyés, on va dire. Et puis voilà. Et en fait, ça a une très très belle fécondité au quotidien.
Eh bien, merci beaucoup Bertrand Chevalier-Chantepie pour cette émission. Peut-être à bientôt.
Avec joie.
Et merci beaucoup. Au revoir.
Merci. Au revoir à tous.
Chers auditeurs de Radio Maria, nous étions en émission avec Bertrand Chevalier-Chantepie, auteur de l'ouvrage « Accomplir sa vie d'homme » aux éditions Artege. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr. Rubrique sociale.